17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver dans ce grand témoin spécial en compagnie d'Hassan Zerraoui. Merci d'être parmi nous.
Merci Nasser. Je salue la technicienne qui nous accompagne et toute l'équipe de Beurre FM.
Merci. Donc Hassan Zerraoui, spécialiste historien, spécialiste de l'histoire de l'immigration, sociologue. Vous avez bien connu Pierre Bourdieu, Abdelmalek Sayad. L'immigration, l'histoire de l'immigration n'a aucun secret pour vous. Vous avez d'ailleurs publié plusieurs études et vous avez travaillé notamment avec le CNRS et vous continuez donc à faire des recherches sur cette histoire emblématique qui est notre histoire à nous tous. Alors aujourd'hui, on va faire une radioscopie de l'immigration et surtout une radioscopie du 17 octobre 61, puisque Emmanuel Macron a décidé de commémorer le 60e anniversaire par un recueillement au pont de Beson et en publiant en diffusant un manifeste où les crimes de Papon sont reconnus et qui des crimes inexcusables pour la République. Tout d'abord, tout de suite, est-ce que ce communiqué vous satisfait? Vous êtes à la fois acteur et de cette histoire et en même temps vous avez un œil et un avis, j'imagine, sur ce communiqué.
Il faut savoir que la position du président de la République, Emmanuel Macron, n'est pas simple. Tout ce qui tourne autour de l'Algérie, de son histoire, des rapports entre la France et l'Algérie, de la guerre d'Algérie, reste un sujet éminemment sensible dans l'opinion française qui est très partagée. Il y a les pour, les anciens Algérie française et qui sont toujours là. Il y a les pro-FLN, il y a les enfants de Harkis, les Harkis eux-mêmes, etc. Donc les pieds noirs. C'est une histoire très difficile, très complexe. Je pense que son communiqué, c'est bien, mais c'est un minima. Parce que on n'est toujours pas dans la reconnaissance d'un crime d'État.
Vous direz que, comme l'a dit Jospin en son temps, qu'Emmanuel Macron a été contraint de faire ce type de communiqué. Campagne électorale oblige, il est sur une ligne de crête entre la droite, l'extrême droite et la gauche. Il a été un peu contraint. Vous pensez s'il est réélu, il ira plus loin?
Oui, je ne sais pas s'il est réélu, s'il ira plus loin, parce que il y a des pressions de toutes parts et c'est vrai que il était contraint parce qu'il avait déjà reçu les Harkis auxquels il a donc rendu hommage, dont il a reconnu l'apport et c'était la moindre des choses parce qu'il y a une importante communauté franco-algérienne qui n'est pas issue donc des Harkis. Qui demandait aussi le droit à la mémoire et c'est tout à fait légitime, c'est bien que le président l'ait fait, on ne peut pas critiquer, contrairement à ce qu'on dit hier, j'étais à la manifestation, mais malheureusement les gens qui sont partis de Rax, ils ont été bloqués à Châtelet, c'est la première fois que ça se produit. Moi, j'étais d'abord à Saint-Michel, et puis j'ai vu, ils m'ont dit non, ils sont du côté de Châtelet.
Donc apparemment, ça a été bloqué à Saint-Michel, et on a refusé l'abord de la stèle.
Tout à fait. C'est inexplicable.
Alors que les gens voulaient se recueillir sur la stèle.
Oui, c'était inexplicable, c'est injustifiable, c'était une manifestation très pacifique, et donc comme celle du 17 octobre 61.
Vous avez une explication, vous, pour ça?
Ben écoutez, c'est toujours pareil. Je pense que Monsieur le ministre de l'Intérieur, il veut montrer qu'il tient les choses en main, parce qu'il y a la pression. Je ne sais pas, est-ce qu'il avait peur d'un débordement, ce qui est complètement faux. Peut-être vu les tensions, les problèmes qu'il y a autour du terrorisme, j'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est la première fois que la chose se produit, et moi je pense que c'était pas nécessaire de faire ça.
Mais en même temps, vous parlez de première fois, et vous parlez de ministère de l'Intérieur, oui. C'est aussi la première fois que le préfet de Paris, Didier Lallement, s'est recueilli,
oui.
Salut militaire,
oui.
Couronne de fleurs,
oui.
Préfet de police,
oui.
Qui avait donc, dont on connaît le rôle dans la répression et dans, oui. les crimes qui ont été commis, donc rend hommage, oui. aux victimes du 17 octobre 61, c'était le minimum qu'ils pouvaient faire après le recueillement du président, c'est ça?
Oui, c'était le minimum. Mais bon, disons que l'histoire suit son cours. Le problème, Nasser, c'est que la question de fond, c'est jusqu'où sont allées les responsabilités dans ce que moi j'appelle un véritable massacre.
Justement, on va y arriver dans un instant, oui. Parce que, comme beaucoup de gens, vous réclamez que ce soit reconnu comme crime d'État, je pense, hein, donc on va préciser les responsabilités, mais restons un peu tout de suite sur l'actualité. Oui. Pour la première fois, l'Algérie a salué le 17 octobre. Bon, en Algérie, on fait du 17 octobre la journée de l'immigration, c'est la journée des immigrés. Voilà, c'est un truc exotique, comme ça, on sait pas trop. Les Algériens d'Algérie ne savent pas trop à quoi ça correspond. Mais là, 60e anniversaire, Abdelmadjid Tebboune se recueille devant le monument aux martyrs. Une minute de silence dans toute l'Algérie, dans tous les ministères, dans toutes les mairies, un peu partout, dans les écoles. Et on salue les martyrs, enfin les morts du 17 octobre. À votre avis, ça correspond à quoi ce changement de curseur ?
Bah écoutez, parce que je pense que l'Algérie prend conscience quand même. Les Algériens ont pris conscience et le président Tebboune, bon, il a fait ce qu'il devait faire. C'est la moindre des choses.
Il a fallu attendre le recueillement de Emmanuel Macron en France pour que lui décrète une minute de silence.
Voilà, tout à fait. Parce que s'il dit, si déjà la France reconnaît, si l'Algérie ne reconnaît pas, c'est quand même quelque chose qui apparaît non seulement paradoxal, mais inexplicable. Donc du coup, c'est bien qu'il ait fait ce geste, c'est bien que l'Algérie, mais vous imaginez Nasser, 60 ans après, si ce geste de Tebboune, du président Tebboune, est tout à fait à saluer, parce que c'est normal, et ces victimes qui demandent la vérité, la justice, ne sont pas encore reconnues pour ce qu'elles ont été.
Mais au-delà de ces victimes, c'est le rôle de la Fédération de France du FLN, qui a été le poumon organisationnel et financier de la Révolution, et depuis l'indépendance, l'apport et l'histoire de l'immigration, l'étoile nord-africaine, le MTLD, le MNA, le PPA, etc., a été occulté.
Oui, bien sûr.
Reconnaître le 17 octobre, quelque part, ils vont être obligés d'aller plus loin.
Ben oui, il est à souhaiter, mais c'est pas sûr. Parce que des fois, en Algérie, on prend des mesures conjoncturelles liées à un contexte, mais sans pour autant donner suite, hein, et c'est un suivi. Mais là, je pense que il serait indispensable d'abord que le 17 octobre soit, bien sûr, à les journées nationales, mais soit enseigné dans les écoles, et comme événement comme l'un des grands événements historiques de l'Algérie. C'est quelque chose de manière générale.
De la révolution algérienne.
Oui, de la révolution algérienne. Et l'apport de l'immigration a été essentiel, puisque non seulement ils ont fourni des armes, mais aussi ils ont fourni de l'argent pour acheter des armes. Mais il y a eu des cadres aussi qui sont partis vers la Tunisie. Et c'est quand même ce qui est extraordinaire dans l'histoire de la Fédération de France du FLN, c'est que comment une organisation s'implante dans un pays colonisateur, dont la clandestinité s'organise, mène la guérilla urbaine, c'est une vraie guerre à l'intérieur même de la France.
La 7e Wilaya, comme l'appelle Ali Haroun.
Oui, Ali Haroun avait raison de l'appeler la 7e Wilaya, mais de toute façon, le congrès de la Soumam avait déclaré que l'immigration avait un rôle à jouer dans la révolution. Il ne faut pas l'oublier. Et de toute façon, l'immigration algérienne a toujours été une immigration politisée. Elle est quand même beaucoup plus politisée que les autres immigrations, peut-être à part celle des Espagnols, les Républicains, mais le mouvement national s'est développé grâce justement à la création de l'étoile nord-africaine et ensuite de tous les partis. Et quand est arrivé le déclenchement de la révolution, Nasser, ça a été incroyable de pouvoir créer, structurer, organiser une vraiment en révolution à l'intérieur même de la citadelle du colonisateur. C'est quelque chose qui est inédit. Et c'est très, très difficile. C'était très, très difficile. Moi, j'ai connu mes oncles, mais d'autres comme Nasser, tu as connu beaucoup de gens. Moi, j'ai connu beaucoup de personnes qui, ils m'ont décrit comment ils faisaient. Ils se réunissaient dans la clandestinité et ils changeaient de lieu constamment. Donc, ils devaient à la fois travailler et en même temps s'organiser, cotiser, se réunir, suivre l'actualité et évoluer politiquement en fonction de la conjoncture des rapports de la guerre.
Alors, qui a décidé de la manifestation du 17 octobre? Parce que Jean-Luc Hénaud dit, dans son livre « La bataille d'Alger », la bataille de Paris, dit que c'est la Fédération de France, mais beaucoup de gens disent que c'est Krim qui l'a décidé, Krim Belkacem.
La question, la réponse, personne n'a apporté. En tout cas, je tiens à saluer évidemment Hénaudy, Jean-Luc Hénaudy. Je pense, moi j'ai lu les autres ouvrages, c'est le plus approfondi, le plus fouillé. C'est vraiment un véritable document historique fondamental, parce que Hénaudy ne se contente pas d'un descriptif des événements, mais il va voir les acteurs et il voit comment les choses se sont organisées dans la Fédération de France du FLN pour arriver, parce qu'au fond, le 17 octobre, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de tout un processus qui avait commencé depuis 55, disons, 56. Hein, et donc, dans la Fédération de France. Et pour ce qui est de l'ordre, alors oui, il y a deux hypothèses. Il y a celle qui dit que, au fond, ça s'est décidé à Düsseldorf, enfin, en Allemagne.
Omar Boudaoud.
Oui, à Omar Boudaoud, qui d'ailleurs, au passage, avait dit aux manifestants, vous ne même pas un penny dans la poche, sinon c'est la mort. C'est terrible. Mais bon, alors oui, on pense que c'était.
Il a dit même pas un penny dans la poche, mais en même temps, dans les bidonvilles, etc., oui. ils ont dit, vous devez tous aller manifester sous peine de mesures de rétorsion menaces d'exécution s'ils n'allaient pas manifester. Donc
il faut pas être dans
c'était la guerre.
Oui, il faut pas être dans l'angélisme. On ne casse pas, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La guerre, c'est vraiment quelque chose.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
De nouveau dans les grands témoins avec Hassan Zerhaoui au cœur de l'immigration. Hassan Zerhaoui, compagnon de Pierre Bourdieu, de Abdelmalek Sayad, spécialiste de l'histoire de l'immigration du mouvement ouvrier algérien s'il en est. Merci mille fois d'être aujourd'hui et de nous apporter votre éclairage sur le 17 octobre, donc une radioscopie hors du commun avec vous. Alors, ce 17 octobre, d'où vient-il ? Pourquoi le 17 octobre ?
Merci Nasser, merci de l'invitation aussi quand même. Je remercie Beurre FM, toi, l'équipe de Beurre FM de m'avoir invité. Ben, le 17 octobre, c'est un aboutissement. Le 17 octobre 61, et je pense qu'il faut reprendre un peu la chronologie des événements. 55, 56, la fédération commence à s'implanter. Il y a le FLN d'un côté, le mouvement nationaliste algérien de Messali Hadj de l'autre. Donc, ils commencent à s'implanter les deux. Et c'est une lutte fratricide en 56, 57, 58. Et ça continuait comme ça. Et alors, bien sûr... il faut recontextualiser. Le 17 octobre, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en Algérie, malheureusement, à la suite des opérations jumelles de 1958, et mon propre frère qui était savait de quoi il retournait à Terre Marbé, l'opération Châle a complètement anéanti les maquis. Et la bataille d'Alger avait porté un coup énorme à l'organisation urbaine
Là, on est en quelle année, là ?
En 57. Et là, en 58, les maquis sont affaiblis Et alors, il restait les Francs.
C'est là où on assiste à ce qu'on appelle, entre autres, les opérations jumelles,
oui.
Où des villages entiers sont bombardés, rayés de la carte, passés au napalm.
Oui, oui, c'est jamais, cette opération jumelle à elle-même, toute seule, mériterait, je sais pas un ouvrage, des ouvrages, parce que ça a été la destruction totale.
Alors, on est dans l'extermination.
Oui, oui.
Et on est dans la même extermination que les enfumades.
Oui.
Du général Bugeaud.
Oui, voilà. C'est sûr que là. Et donc, ce qui restait, c'est du côté du Maroc et de la Tunisie, des forces. Les forces qui existaient, qui étaient armées, et donc ils représentaient 30 000 et quelques des deux côtés. Mais ils ont essayé de faire des infiltrations, ça a été des échecs. Et du coup, le fait que la Fédération de France déclenche des attentats, sabote des lignes de chemin de fer, touche les sites économiques sensibles. Ça donnait un peu de respiration et de confiance au maquis en Algérie, et d'autre part, ça internationalisait le problème. Donc, ce 17 octobre arrive après, donc, 57-58, il y a beaucoup de morts du côté FLN, du côté MNA, mais aussi, on a beaucoup tué du côté algérien, donc FLN, avec des noyades. C'était pas le, il n'a pas fallu attendre le 17 octobre. Noyades, répression, des gens abattus froidement, alors des témoignages.
Bah, à l'époque, il n'y avait que des indigènes musulmans.
Oui.
Il n'y a pas de citoyenneté française ni rien.
Oui.
Et on était des bicots, des crouilles, oui. Des ratons. Et c'était de là les ratonnades.
Des melons, des tchouk-tchouk.
Des melons, etc.
Des tchouk-tchouk, des bougnoules.
Voilà. Et donc c'était des éliminations, on jetait à la Seine, on emprisonnait. Il y avait des disparitions, des gens qu'on n'a jamais pu revu.
Ben oui, le problème est là, c'est que finalement le FLN avait décidé, évidemment, il y avait l'OS, l'organisation spéciale, donc les commandos, on a tué quand même Ali Chekal en pleine Coupe de France en 58. Le courage de cet homme qui est allé tuer Ali Chekal, c'est inouï. Comment il est arrivé alors qu'il était à côté du président de la République? Ils ont blessé Abdeslam, ils ont essayé et ils ont attaqué aussi. Son nom m'échappe parce que c'est exprès là, le gouverneur Soustel. Voilà. Donc ils ont entrepris des actions multiformes pour montrer que finalement le FLN et l'ALN ne lâchaient rien, qu'il se soit passé même si en Algérie on était affaibli, là le FLN ne lâchait rien. Mais du côté des forces de l'ordre françaises, les ripostes sont terribles, monsieur Nasser. Elles sont terribles parce que le nombre de gens, on arrive en voiture civile, on fait monter la personne et puis on la bat, on la jette dans la rue ou on la jette dans la Seine. Et les noyades, les pendaisons dans les bois. Et tout ça, c'est cumulé au fur et à mesure des années 56, 57, 58, 59, 60, 61. Il faut savoir que les premières négociations de Melun en 60, en juin 60, n'ont rien donné. Donc, mais au sein même du gouvernement français, il y avait une sorte de malaise. Le général de Gaulle voulait avoir les mains libres parce qu'il avait compris à un moment donné, il l'avait déclaré d'ailleurs en septembre 60 et après, qu'il allait vers l'autodétermination et l'indépendance. Seulement, voilà, il avait nommé le 9 janvier 59 Michel Debray comme Premier ministre. Or, Michel Debray était un farouche partisan de l'Algérie française. Alors, quand est arrivé le général de Gaulle, étant convaincu que son premier ministre ne l'aiderait pas, mais saboterait ses actions, décide de lui enlever les affaires algériennes. Mais à condition, avait précisé Debray, qu'il lui laisse le maintien de l'ordre en France. Et c'est ça la tragédie de l'histoire. Le maintien de l'ordre, il a d'ailleurs voulu créer une troisième force qui se substituerait au FLN en France, mais qui a échoué lamentablement. Mais c'est vrai que pour l'organisation du FLN aussi a connu des moments très très difficiles, la Fédération de France, parce que il y a eu des arrestations, comme toujours il y a des traîtres, il y a des indicateurs, donc ils ont saisi des armes, ils ont saisi beaucoup d'argent, mais
on sortait aussi de la guerre FLN et Ménard.
Ah oui, bien sûr.
Faut pas oublier ça aussi.
Non, je l'ai dit, le massacre a continué, ce qui est dramatique. C'est une histoire, une véritable tragédie, que des Algériens se mitraillent entre eux et essayent de s'entretuer, de s'éliminer. Alors du coup, ils laissent le côté, le colonisateur, lui, continuer de régner. Donc, Michel Debré, en prenant le maintien de l'ordre en France, on arrive à ce 17 octobre 61. Or, l'année 61 a été précédée d'une répression féroce. Les militants du FLN, de la Fédération de France, avaient aussi mitraillé des commissariats, avaient tué des policiers. Mais jamais, ont indiqué leurs responsables, ils ne tuaient un policier qui ne s'en était pas pris aux Algériens, sauf s'il tombe par hasard dans une fusillade collective où il tombe. Mais du coup, comme il y a eu pas mal de policiers, il y a eu des policiers d'abattus, enfin de tués, la police avait une certaine rage. Et puis, ils étaient habitués depuis, on leur a donné quasiment carte blanche. Ils faisaient les gens devant les cafés, ils rentraient dans... Ils faisaient ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire sans mandat de perquisition, sans rien. Ils allaient, ils décidaient, ils emmenaient, ils exécutaient. Ça, c'était terrible. Mais ils avaient aussi une certaine rage du fait que le FLN, un, leur résistait, parce que quoi qu'on faisait, on arrêtait. Mais d'autres remplacés. Et c'est ça qui est extraordinaire dans cette histoire de l'immigration. Il faut savoir que en 46, Nasser, il y avait 22 000 Algériens en France. Et en 54, 200 000. Mais à la fin de la guerre, ils étaient près de 400 000. Donc c'est quand même, c'est un potentiel énorme. Humain, c'est un capital humain fantastique pour la Révolution. Seulement, la Révolution n'a pas... Parce que il y avait le pôle de Tunis... comme il y avait qu'un, ça se passait en Tunisie, donc là il y avait du côté de la Fédération de France, du FLN. Alors parce que la question qui a été posée tout à l'heure, qui a donné l'ordre du 17 octobre 61. Moi, je ne pense pas que ce soit Krim Belkacem qui l'ait donné. Parce que pourquoi? Parce que c'était la période où ils voulaient pas. D'ailleurs, à un moment donné, bien avant.
Krim Belkacem qui était en train de négocier secrètement.
Oui, c'est ça. Pour ne pas gêner justement les négociations, même un peu avant, le GPRA disait que il fallait pas trop faire de vagues. Il fallait à la Fédération de France, il fallait calmer le jeu parce qu'ils avaient besoin d'avancer dans les négociations. Mais le 17 octobre tombe donc après une répression sanglante de toute l'année 61, terrifiante. Il faut compter le nombre de morts, c'est pas seulement ceux du 17 octobre. Eh bien, monsieur Papon, ne pas le nommer, décide donc que à partir de 5h du matin jusqu'à 20h30, à partir de le couvre-feu s'instaurait de 20h30 à 5h du matin. Et que les 20 heures, et que les Algériens donc devaient rester parqués.
Et ça, il l'a décrété le 5 octobre.
Oui, tout à fait. Le 5 octobre, après conseil interministériel. Ça s'est pas fait comme ça. Il faut pas croire. C'est pour ça. Moi, je dis, c'est un massacre programmé. Je mesure mes mots. Moi, je dis pas. Il faut que la France se repente. Mais
Il n'a pu c'est une décision ministérielle.
Oui.
Et donc sous couvert du ministre de l'Intérieur de l'époque qui était Roger Frey et du Premier ministre qui était Michel Debré.
Tout à fait. Et c'est les trois.
Donc l'État français était partie prenante du couvre-feu et donc par la suite de la répression.
Mais tout à fait. Mais ce qui est étonnant, c'est que ce couvre-feu qui est complètement anticonstitutionnel. Puisque malgré tout, FMA ou pas, français, musulmans d'Algérie, on était quand même des citoyens, même de seconde zone. Ils n'ont pas le droit, constitutionnellement, ça s'appelle des mesures discriminatoires, des mesures racistes. C'est une mesure raciste, une mesure discriminatoire. Ce qui est étonnant, ce n'est pas tant le côté du gouvernement, parce que Michel Debray voulait mater avec son capitaine Montané, avec ER à la fin, qui un dur des durs, qui a fait l'Indochine, qui dirigeait, qui a fait venir, et ça fait beaucoup de mal aussi à l'organisation du FLN, il a fait venir donc les forces auxiliaires de police, ce qu'on appelle les calots bleus. Il les a installés dans un moment, dans une première étape, au mois de mars 1960, à Noisy, au camp de Noisy, et puis au fort de Noisy, et puis après, ils sont entre décembre et janvier, disons l'hiver 60-61, ils ont fait beaucoup de mal. Ils avaient une antenne, donc la première antenne qu'il a installée, c'était dans le 13e. Il a amené ses hommes, donc ceux-là, ils étaient sans pitié, sans état d'âme, ils arrêtaient et torturaient, au point que du côté du 13e arrondissement, des citoyens français dérangés par les hurlements de pauvres gens qu'ils torturaient la nuit, disaient « ça suffit », et donc ils ont dû calmer un peu le jeu de ce côté-là. Mais cette force auxiliaire de police a fait beaucoup de mal à l'organisation, parce qu'ils l'ont infiltré, ils étaient aussi infiltrés, parce que ça se passe des deux côtés, c'est comme tu disais, c'est la guerre, et donc il n'y a pas de... Alors moi, ce qui m'étonne, c'est pas tant la prise de décision accompagnée sûrement par Michel Debray, parce qu'il faut vérifier quand même, en disant, on suppose. Et comment se fait-il que les partis de gauche, que l'opinion française, voient l'instauration d'un couvre-feu dans le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le pays de Danton, et l'indifférence générale?
On y revient dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours en compagnie d'Hassan Zerraoui, au cœur de l'immigration, au cœur du 17 octobre. Donc là, c'est la chaîne de commandement est prise, Conseil des ministres, les milices parallèles, la répression sans pitié depuis le début de l'année 61, ce couvre-feu anticonstitutionnel, et là, c'est la manifestation, la bataille de Paris.
Voilà, la bataille de Paris, comme l'a appelé Enodi,
comme l'a appelé la Fédération de France.
Oui, la Fédération de France, bien sûr, dont je salue la mémoire. Juste un mot pour revenir après, pour qui a pris cette décision au niveau de UFLN. Moi, je pense que certains penchent plutôt pour le comité fédéral. Donc en France, parce que je ne sais pas si le GPRA...
Le comité fédéral qui était basé en Allemagne.
Oui, en Allemagne, oui. C'était,
dont le patron était Omar Boudaoud.
Voilà, oui, c'était Omar Boudaoud qui s'était éloigné, laissant les responsables ici, c'est beaucoup plus dangereux, et qui a été un grand monsieur, bon, qui a dirigé la Fédération de France de façon remarquable. Et bien, oui, je pense que plutôt cette hypothèse, mais on ne répondra jamais à cette question. Alors, je disais donc, Nasser, ce qui m'a étonné, c'est ce qui m'étonne toujours, c'est cette absence de réaction de la gauche, des défenseuses et des défenseurs des droits de l'homme et du citoyen. Comment on parque une communauté, comment on décide de continuer, de prolonger ce qu'on appelle le code de l'indigénat. Code de l'indigénat, monsieur Nasser, c'était 1885, j'ai pas la date exacte en mémoire, mais dans 1800, qui a duré jusqu'en 1945. Et il y avait une série d'infractions, dont celle-ci, interdiction pour l'indigène de se déplacer en dehors de son douar sans autorisation préalable. Et mais là, quand on parle de faits historiques vrais, on vous dit pas de repentance, pas de... Nous, on veut pas la repentance, monsieur Nasser. On veut la reconnaissance. Et la France se grandirait en reconnaissant ce qu'elle a fait. Elle ne peut pas continuer d'occulter un massacre de cette dimension au nom de la mémoire des victimes, de leurs familles et de l'Algérie, de l'histoire de l'Algérie et de sa révolution. Donc, non seulement ils n'ont pas réagi à couvre-feu, mais en plus, Le 17 octobre arrive. Donc, moi je connais plusieurs personnes qui ont participé. L'ordre a été maintenu secret jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à minuit la veille, on a continué à se réunir et on a informé donc les Algériens en leur disant « Vous manifestez votre adhésion au FLN, à l'indépendance, à la libération des détenus politiques. » Et donc la manifestation commence. Nasser, je crois que vous avez vécu cette histoire, c'est sur les épaules de votre maman, la Rahma. Et donc ça a commencé. En fait, l'objectif, c'était de se rejoindre à la Concorde. Sinistre journée, puisqu'il pleuvait. Mais malgré la pluie, comme on dit, la foi soulève des montagnes. Des fois, il y a une foi patriotique. Ce n'est pas seulement la foi religieuse, c'est une forme de foi patriotique. Eh bien, ils ont obéi, ils ont pris des métros. Des fois, les bus de la RATP refusaient de les prendre, mais ils arrivaient quand même. Ils sont arrivés.
Quand ils n'étaient pas aussi arrêtés par les barrages à Nanterre, au pont de Beson, etc.
Oui, partout.
Où ils étaient renvoyés chez eux, ils faisaient demi-tour. Enfin,
ils
étaient arrêtés sur les grands boulevards, on les mettait dans des cars et on les envoyait au fort de Vincennes.
Oui, c'est ça, mais pas seulement le fort de Vincennes. Alors, ce qui est dramatique, c'est l'accueil qui a été réservé, entre guillemets, c'est l'accueil terrible. C'est la matraque. Ils ont essayé de bloquer, mais la masse est importante. Ils n'ont pas pu juguler une manifestation d'une telle ampleur. C'était pas possible. Et du coup, ils se sont rendus il y a du côté du boulevard Saint-Germain, du côté du boulevard. Certains se sont rendus donc direct à la Concorde, au pont de Beson, à l'Étoile, place de l'Étoile, place de la Concorde, à l'Opéra. Et puis, boulevard des Italiens, là, les grands boulevards. Et la police a fait circuler une rumeur comme quoi les manifestants étaient armés, qu'ils tiraient sur la police. Et là, ils sont allés pas de main morte. Je frappe, je tape, j'embarque, je défère devant, à Vincennes, au palais des congrès. La préfecture de police en tue sur place. Et c'était un véritable massacre. Donc malheureusement, on ne connaît pas encore le nombre.
Et puisque vous parlez de la population, pendant ce temps-là, les gens sortaient des cinémas, allaient au restaurant, sortaient des restaurants. En fait, deux mondes qui vivaient.
C'est incroyable. Ce qui prouvait que les immigrés algériens, ils les voyaient, mais ils ne les reconnaissaient pas.
C'était invisible.
Oui, c'était invisible. Ils étaient dans l'invisibilité sociale parce qu'ils existaient, mais on ne les voyait pas. Voilà, c'est absolument inouï. Donc cette répression, et donc le palais, il y a même des policiers qui ont été écœurés, qui ont témoigné contre cette violence inouïe. Mais en fait, c'est pas seulement la police qui est responsable de ça. Elle a reçu des ordres. Et les ordres, donc comme on l'a dit, mais ce qui interroge, donc c'est non seulement cette indifférence, Nasser, cette indifférence par rapport au matraquage, à la chasse à l'homme, je salue Élie Kagan, il ne faut pas que je l'oublie.
Élie Kagan, qui est le photographe de cette époque, qui on doit toutes les photos, et surtout aussi quelqu'un qu'on vient de découvrir récemment, qui s'appelle William Gardner Smith, qui est un journaliste américain, qui a donc vécu le racisme aux États-Unis, qui a fui les États-Unis, qui était à l'AFP à Paris, et qui ce jour-là assiste à la répression d'octobre 61, et qui publie un livre en 62 qui s'appelle Face of Graves, Visage de pierre, qui vient d'être édité chez Christian Bourgois Éditions. Incroyable.
Oui, incroyable. Donc c'est une différence inimaginable. D'ailleurs, Témoignage chrétien avait titré les Tartuffes. Même le journal Le Monde, Jacques Fauvet, est allé dans le sens qu'il fallait maintenir l'ordre, que c'était des terroristes. Mais c'est absolument incroyable, journal Le Monde. Toute la presse, à part l'Humanité, l'extrême gauche, le PSU.
Alors, Sharon, c'est quoi? Alors, on se rattrape?
Oui,
on fait Sharon pour se rattraper de pas avoir été à la hauteur en octobre 61.
Oui, non, ils font Charonne. En fait, ils veulent la paix en Algérie. Ils font Charonne. Je crois pas qu'ils veulent se rattraper de octobre 61. Ils savent très bien.
C'est autre chose, alors.
C'est autre chose, tout à fait. Mais malheureusement, il y a la confusion.
Et là, il y a aussi des morts.
Et là, je parle aussi de la mémoire de Fatima Béhar, 15 ans. J'aimerais qu'on lui donne un nom de rue, un nom de terre. 15 ans, 4 ans, 4 jours après, ses parents retrouvent son portable. C'est une lycéenne. C'est terrifiant. Et donc là, non seulement ils ne réagissent pas le jour où on massacre, et ça continue, c'est pas le 17 octobre, ça continue jusqu'à la fin du mois d'octobre, et ça continue...
Et début novembre.
Même en novembre. Mais c'est surtout que, d'une part, ils n'ont pas réagi par rapport à la mise en compte carrément de la communauté algérienne, c'est-à-dire au couvre-feu. Mais en plus, ils n'ont rien dit des massacres. Il a fallu un temps
officiellement,
fou.
C'est 3 morts.
Oui, oui.
3 morts, quelques blessés.
Mais
quelques jours après,
c'est honteux.
40 morts.
Oui,
mais
c'est
aujourd'hui,
honteux.
On sait que c'est entre 200 et 400 morts.
Si papa en était encore vivant, on lui aurait dit, regardez-vous dans le miroir, 3 morts. 3 morts ajoutés.
Donc aujourd'hui, entre 200 et 400 morts, des milliers de disparus.
Voilà. Et surtout, moi je dis maintenant, la question de la mémoire doit continuer, la lutte pour la mémoire, la lutte pour la justice, la lutte pour la vérité, la lutte pour la reconnaissance et la lutte pour la réparation. Parce qu'il n'y a pas de raison, moi je connais, par exemple autour de moi, deux frères, l'un il a vécu jusqu'il y a 8 ans, l'autre il est mort le jour même. Ils les ont pris tous les deux, ils leur ont demandé ce qu'ils savaient nager. Ils ont dit, l'un des deux dit non, l'autre dit non, ils les jettent tous les deux, mais l'un des deux sait nager, donc il s'en est sorti miraculeusement, et son frère évidemment il a été coulé. Et ça... C'est inadmissible. 60 ans après, qu'on fasse une chape de plomb sur cette tragédie, qui est une véritable tragédie, mais aussi qui est inscrite en lettres glorieuses, en lettres de sang, mais en lettres d'héroïsme dans la révolution algérienne. Il ne faut jamais que l'Algérie oublie ce que cette communauté de l'immigration, la diaspora algérienne, a apporté non seulement au développement du mouvement nationaliste, mais aussi à la révolution. Il faut absolument qu'ils en prennent compte à un moment donné ou à un autre dans les livres d'histoire et même avec des commémorations. C'est pas seulement versé dans le mémoriel inutile ou je ne sais quoi, mais c'est simplement parce que ces personnes...
Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une place du 17 octobre à Paris, il faut indemniser les victimes,
tout à fait.
Il faut les reconnaître, il faut leur nom le 17 octobre 2021, sur la stèle de la mairie de Paris, enfin sur le pont Saint-Michel, les noms ont été déclamés, on a les noms un par un ont été déclamés. Donc il faut indemniser les familles, il faut indemniser la mémoire, il faut les reconnaître, il faut
absolument.
Il faut peut-être faire une stèle un peu plus importante, peut-être une place du 17 octobre, inscrire tout ça dans les livres d'école.
Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui touche à l'Algérie est extrêmement sensible. On le voit surtout en pré-campagne électorale présidentielle 2022. Mais effectivement, il faudrait premièrement, engager des recherches pour exactement savoir, pas précisément, mais au moins évaluer le nombre de morts. Deuxièmement, une fois évalué le nombre de morts, la réparation, donner la réparation. Ensuite, il y a la question de la mémoire et de l'histoire, la reconnaissance de ces héros, ces véritables martyrs, de la révolution algérienne, non seulement en Algérie, mais aussi il faut que la France reconnaisse, non pas parce qu'ils l'ont combattu, mais au moins reconnaisse cette tragédie en lui donnant. Il y a des localités qui ont, des municipalités qui ont fait des gestes en reconnaissant ce 17 octobre 61. Mais le problème, c'est que si on faisait, comme je suis sociologue de profession, si on faisait un sondage spontané auprès de la jeunesse française, y compris la jeunesse dite beurre, eh bien, très peu vous diront, le 17 octobre, c'est quoi ? C'est rien.
Oui, les gens le connaissent.
C'est une date ordinaire, comme il y en a. Alors, ils en ont fait d'une date extraordinaire, d'une date héroïque, ils en ont fait une date ordinaire, un jour comme les autres, alors qu'il pleuvait, Et les cadavres jonchaient les trottoirs, jonchaient les trottoirs de la mairie, de la préfecture de Paris, Vincennes, le palais des congrès, le palais des sports,
les Noisy,
le Coubertin, ouais, Coubertin. Et donc c'est quand même
une véritable organisation administrative.
Donc, ah oui,
était,
oui,
l'État était là, quoi.
Oui, oui, tout était organisé pour que les choses ne se sachent pas. C'est-à-dire que surtout pas de manifestations visibles. Essayons, on agit, on casse le mouvement, parce que c'était l'objectif de Brest, c'était de casser la Fédération de France. Je disais avec ce capitaine Montaner qui était ultra-Algérie française et qui dirigeait les harkis, les forces auxiliaires de police, il voulait absolument briser ce mouvement.
Aujourd'hui, il y a des troisième génération, quatrième génération, cinquième génération d'origine algérienne, de l'immigration, par rapport à ces événements-là. Et Emmanuel Macron, lorsqu'il s'est recueilli et qu'il a commémoré le 60e anniversaire, a dit c'est une reconnaissance et c'est une commémoration franco-française. C'est-à-dire que on s'adresse aussi à tous ces Français qui ont été meurtris par cette histoire, dont les parents ont été concernés par cette histoire, les grands-parents, etc. Et c'est sa volonté de réconcilier les mémoires, qu'il n'y ait pas de surenchère des mémoires, de confrontation des mémoires, et que tous ces jeunes qui sont Français aujourd'hui, qui sont de père, de grand-père, d'arrière-grand-père, d'arrière-arrière-grand-père algérien, puissent se construire en tant que Français dans la France d'aujourd'hui, avec une mémoire qui est la guerre d'Algérie, qui est le 17 octobre. Vous l'entendez, ça ?
Oui, enfin, c'est particulièrement difficile quand même de faire. C'est-à-dire que il faut faire œuvre de pédagogie, peut-être dans les écoles ou même des conférences, des choses comme ça pour pouvoir faire émerger cet événement. Il faut que cet événement arrive à s'inscrire comme une des pages de l'histoire de France, que la France reconnaisse comme telle, c'est-à-dire telle qui est avec ce qui s'est produit. Je l'ai dit tout à l'heure, bon, Emmanuel Macron
a dit une page qui s'adresse à tout Français,
oui,
qu'il soit d'origine algérienne,
oui,
qu'il soit d'origine tchèque, sénégalaise,
oui,
ou américaine.
C'est
l'histoire de France,
oui.
C'est ce que la France a fait, un crime d'État, et ça s'adresse à tous les Français. Les Français devraient être au courant de cette histoire.
Ben, les deux historiens anglais, Jim House et MacArthur, avaient dit que jamais il n'y a eu une manifestation réprimée de cette ampleur depuis la Deuxième Guerre mondiale en France. Dans l'histoire contemporaine, ça n'existe dans aucun pays au monde. Ils ont dit c'est quelque chose d'inédit. Et d'ailleurs, l'historien Pierre Vidal-Naquet, dont on salue la mémoire, parce qu'il a été militant, grand historien.
Contre la torture, notamment.
Oui. Et donc, il a dit un mystère, en parlant du 17 octobre, comment ça s'est passé, comment ça s'est produit, qui a donné l'ordre, qui a... En fait, je pense que c'est allé jusqu'au général de Gaulle, l'événement, la tragédie. Mais le général de Gaulle, paraît-il qu'il s'est énervé, mais il a couvert.
Il a convoqué Papon, il lui a dit, Monsieur Papon, vous avez été débordé.
Voilà, oui.
Apparemment, c'est ce qui est.
Non, non, mais surtout, il ne voulait pas blesser Michel Debré. Il voulait pas, enfin, pas blesser, mais pas être en confrontation.
En tout cas, Hassan Zeraoui, on voit bien que cette histoire, c'est pas fini. Que le reconnaître comme crime d'État s'impose probablement dans les années à venir, le plus vite possible. Voilà. Ça s'impose aussi comme un événement de l'histoire contemporaine de la France, et que par rapport à la mémoire et à la citoyenneté, ce 17 octobre est lourd d'enseignements. On y reviendra bien sûr dans d'autres émissions avec vous. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt sur Beurre FM.
Merci Nasser, à très bientôt. Je rends hommage à mon père Ali Larhamou et à ma mère Ouzna. Voilà. À bientôt.
Les grands témoins reviennent dans un instant.